Notre Dieu, nous te remercions pour ta parole. Nous te remercions parce que tu es un Dieu qui n'est pas resté silencieux, mais qui t'est révélé à nous. Nous te remercions pour le privilège que nous avons en tant qu'Église de nous mettre à l'écoute de ta parole. Nous te prions que tu puisses œuvrer dans nos cœurs par ton esprit pour nous montrer tout à nouveau la grandeur de ta grâce, pour que l'on puisse voir à partir de Deutéronome 9 combien l'histoire de l'amour de Jésus est belle et qu'on puisse l'entendre à nouveau, qu'elle puisse résonner dans nos cœurs et nous accompagner jour après jour dans notre vie. Je prie que tu viennes à mon secours dans ma faiblesse pour m'aider à exposer ta parole avec fidélité, avec droiture, avec humilité, et qu'en toute chose, ce soit Jésus qui soit glorifié. Et c'est en son nom qu'on prie. Amen.
Amen.
J'aimerais commencer juste en posant une question à réfléchir dans vos têtes, pas besoin de répondre à haute voix. Qu'est-ce que vous pensez mériter dans votre vie? Si vous êtes chrétien, qu'est-ce que vous pensez mériter dans votre vie chrétienne? Je pense que ce n'est pas une surprise de dire qu'on baigne, on vit dans une société qui tourne autour du mérite. Pour avoir quelque chose, il faut qu'on le mérite, et ce n'est pas forcément mauvais. Pour avoir une bonne note à l'école, il faut qu'on ait bien travaillé. Il faut qu'on le mérite. Pour avoir un nouveau poste au travail, il faut qu'on montre qu'on est à la hauteur de ce poste, il faut qu'on montre ce qu'on a déjà fait, qu'on est à la hauteur, il faut qu'on le mérite. Peut-être pour gagner la confiance de quelqu'un, il faut aussi qu'on prouve qu'on est digne de confiance. Il faut qu'on le mérite. Et donc on baigne dans une société qui tourne autour du mérite. Mais du coup, il y a le danger que quand on en vient à parler de notre relation avec Dieu, quand on en vient à parler de la manière pour nous, êtres humains, de s'approcher de Dieu, on applique les mêmes critères et qu'on pense que ça tourne autour aussi du mérite. Pour que Dieu m'aime, pour que Dieu pense des bonnes choses vis-à-vis de moi, il faut que je prouve que je suis à la hauteur. Il faut que je le mérite. Et ce danger, ce n'est pas quelque chose de nouveau. On va voir dans le texte qu'on va étudier ensemble, Deutéronome 9, que le peuple d'Israël, il était face au même danger. Ce peuple d'Israël, cette deuxième génération, ils étaient sur le point d'entrer dans le pays promis. Enfin, le bon pays que Dieu avait promis de leur donner. Mais ils étaient face au danger de croire que Dieu leur donnait ce bon pays parce qu'ils le méritaient, en raison de leur justice, parce qu'ils étaient plutôt de bonnes personnes. Ils avaient le danger de se dire... Ah, Dieu nous a fait sortir d'Égypte, il nous amène dans un bon pays, il chasse toutes ces nations païennes devant nous. Forcément, c'est parce qu'on est des gens bien. Forcément, c'est parce qu'on le mérite. Et dans ce discours, Moïse remet les choses en place. Il dit non, vous n'avez pas bien compris. C'est pas ça. C'est loin d'être ça. D'abord, le peuple doit réaliser que Dieu chasse les nations qui occupaient le pays promis en raison de la méchanceté de ces nations. C'est ce qu'on voit dans le verset 5 de Deutéronome 9. Il est écrit « Non, ce n'est pas à cause de ta justice et de la droiture de ton cœur que tu entres en possession de leur pays, mais c'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel, ton Dieu, les dépossède devant toi. » C'est ce qu'on avait vu dans le chapitre 7 en particulier, et si vous n'étiez pas là, je vous invite à réécouter la prédication de James là-dessus. Ces nations ne sont pas innocentes, mais elles sont coupables. Et le jugement juste de Dieu tombe sur ces nations en raison de leur faute. Voilà pourquoi Dieu va chasser ces nations, même si elles sont bien plus fortes que le peuple. Mais surtout, ce chapitre 9 de Deutéronome met en avant deux choses que le peuple d'Israël devait savoir, face à ce danger de croire que c'était en raison de leur justice que Dieu leur donnait ce pays. Deux choses que eux, ils avaient besoin de savoir, et deux choses que nous aussi, aujourd'hui, on a besoin de savoir. Et si vous voulez suivre, il y a le plan au dos du feuillet, si vous voulez prendre des notes. Et les deux choses qu'on va voir, la première, sache que tu n'es pas meilleur que les autres. Sache que tu n'es pas meilleur que les autres. Dans ces versets, c'est un peu comme si Moïse disait à ce peuple, tu penses que c'est en raison de ta justice que Dieu te donne ce bon pays? Est-ce que tu es vraiment sûr que tu veux parler de justice? Parce que si on regarde ton CV, si on regarde les œuvres de mérite que tu as présentées devant Dieu, il n'y a pas grand-chose de bon. En fait, même dans ces versets, il n'y a rien de bon. Regardez le verset 6. Reconnais donc que ce n'est pas à cause de ta justice que l'Éternel, ton Dieu, te donne ce bon pays pour que tu en prennes possession, car tu es un peuple à la nuque raide. Le peuple est décrit comme un animal qui ne veut pas obéir à son maître. Et dans la suite des versets, on a la description de ce que le peuple est. On voit dans cette description de ce que le peuple est, à quel point il est loin d'être juste. Regardez avec moi le CV de ce peuple, ce dont ce peuple peut se vanter. On voit au verset 7 que c'est un peuple qui a irrité l'Éternel, qui est rebelle envers l'Éternel depuis le début. On voit au verset 12 que c'est un peuple qui est corrompu. au verset 16, que c'est un peuple qui a péché contre l'Éternel. Au verset 23, un peuple qui n'a pas cru en Dieu, qui n'a pas obéi à sa voix. Au verset 27, on apprend que c'est un peuple qui est opiniâtre. Alors peut-être c'est pas un mot, c'est ma traduction de la colombe, c'est peut-être pas un mot qu'on utilise tous les jours, mais ça veut dire que c'est un peuple qui est obstiné, qui persiste dans son péché. Et Moïse va même jusqu'à dire à propos de ce peuple, au verset 24, « Vous avez été rebelles contre l'Éternel depuis que je vous connais. » Ce n'est pas très glorieux comme description, mais c'est la réalité de ce que ce peuple est. Donc pour ce peuple, de penser que c'est à cause de leur justice que Dieu les fait entrer dans ce pays, ça n'a aucun sens. C'est un peu comme un enfant qui aurait mangé la mousse au chocolat. Si vous avez des enfants, vous allez comprendre ça, ou vous retournez un peu en arrière, ou beaucoup en arrière, pour, quand vous avez été enfant, vous vous souvenez de ça. Quand un enfant mange de la mousse au chocolat ou autre chose, il y en a plus sur son visage que dans le ventre. Il y en a plein partout. Et c'est comme si on disait à cet enfant de voilà, vous lui dites d'aller se laver, et puis il revient, tout aussi sale qu'avant, tout aussi sale qu'avant, et il dit, ça y est, papa, maman, je suis tout propre. Et là, on a envie de lui dire, mais mon pauvre, si tu réalisais ton état. Et c'est un peu la même chose avec ce peuple, c'est presque risible pour ce peuple de se vanter de sa justice, vu ce qu'ils ont fait. Mais ce texte va encore plus loin, en donnant des exemples de la manière dont ce peuple s'est rebellé contre Dieu. Principalement ici, il est parlé de ce qui s'est passé à Horeb, au mont Sinaï, c'est l'épisode du veau d'or, et c'est un peu le summum, l'apogée du péché du peuple. Si vous vous souvenez, c'est l'épisode qui nous est rapporté dans Exode 32 à 34, vous pouvez lire ça chez vous cet après-midi si vous voulez. Alors que Dieu a fait sortir son peuple d'Égypte, Dieu a conclu une alliance avec ce peuple au mont Sinaï, et Moïse monte sur la montagne pour rencontrer Dieu, pour recevoir de la part de Dieu les 10 commandements. Et le peuple, resté en bas de la montagne, se dit « Ah, Moïse fait non quand même !» Il fabrique donc un veau d'or et il se prosterne devant. Ils sont en train d'enfreindre le premier commandement qui est justement en train de leur être donné. C'est un épisode terrible. Et c'était si grave que Dieu voulait détruire le peuple. Peut-être on se dit que la réaction de Dieu est un peu exagérée, comme quelqu'un qui aurait été piqué dans son orgueil et qui réagirait trop fortement. Mais ce n'est pas ça, la réaction de Dieu n'est pas trop exagérée si on réalise l'offense que le peuple a fait. Dieu a fait sortir ce peuple d'un esclavage terrible en Égypte où ils n'avaient aucun espoir. Dieu a conduit ce peuple par sa bonne main, au travers de signes et de miracles. Dieu a pris soin de ce peuple et Dieu a continué à rester fidèle malgré plusieurs rébellions de la part du peuple. Et là, alors que Dieu s'engage par alliance envers ce peuple, qu'est-ce qu'ils font ? Un veau fait de bijoux d'or pour se prosterner devant et pour dire que c'est ce veau-là qui les a fait sortir d'Égypte. Quelle offense! Quelle offense! Ça revient à dire, Dieu, toi qui as créé l'univers, toi qui es au-dessus de tout, tu ne vaux pas mieux pour nous que ce veau d'or. Mais quelle offense de la part du peuple envers Dieu. Assurément, la réaction de Dieu est appropriée. Et cette rébellion de la part du peuple nous montre l'offense qui est le péché, le vôtre et le mien. À la racine de tout péché, il y a la même offense que ce que ce peuple a fait, même si ça a une autre forme, c'est pas différent. Je resterai toujours marqué de ce qu'a dit Henri Blocher, le théologien français, dans une prédication. Il disait que péché, c'est cracher au visage du Créateur. Quelle offense! L'être humain, un tas de poussière qui crache au visage de son Créateur. Mais voilà ce qu'est le péché. Et ce discours de Moïse, il remet donc un peu le peuple en place, en disant, vous pensez, par vos mérites, par votre justice, avoir gagné la faveur de Dieu? Non. La seule chose que vous avez méritée de la part de Dieu, par ce que vous avez fait, c'est sa colère, c'est son jugement. Ces versets disent au peuple, sache que tu n'es pas meilleur que les autres. Tu mériterais d'être détruit, comme les autres nations. Et si tu n'es pas détruit, si tu entres dans ce pays, c'est uniquement par grâce. Tout ce que tu as et tout ce que tu es, du début à la fin, est dû à la grâce de Dieu. Et c'est un message qu'on a besoin d'entendre aujourd'hui, peu importe où on en est par rapport à la foi chrétienne. Et c'est pour ça que j'aimerais donner, au stade où on en est, trois implications pour nous aujourd'hui avant de passer à la suite. Trois implications pour nous que vous avez aussi au dos du feuillet. La première, réalisons que nous ne sommes pas meilleurs que ce peuple. Nous ne sommes pas meilleurs que ce peuple. Vous savez, le peuple d'Israël, c'est un peu comme une voiture qui a un problème de direction. Quand une voiture a un problème de direction, vous allez tenir le volant, mais quand vous lâchez le volant, ça part à droite ou à gauche, ça part d'un côté. Et vous redressez le volant pour dire mais ça va aller mieux. Et si vous lâchez le volant, ça repart de nouveau du mauvais côté. Et vous allez beau tenir le volant, mais à chaque fois que vous le lâchez, ça repartira toujours du mauvais côté. C'est un peu comme ça qu'est le peuple. Il ne peut pas changer par lui-même. Et c'est comme ça qu'on est. C'est comme ça qu'est l'être humain livré à lui-même. Incapable de changer notre cœur. Et c'est pour ça que penser qu'on peut gagner accès à Dieu par les bonnes œuvres qu'on fait, ça n'a aucun sens. Ça ne fonctionne pas. Les bonnes œuvres, aussi bonnes soient-elles, ne peuvent pas changer le cœur mauvais de l'homme. Et donc de se présenter devant Dieu en pensant qu'on peut gagner accès à lui par nos bonnes œuvres, c'est comme être un enfant qui a le visage plein de chocolat et qui pense qu'il est tout propre. Ça n'a aucun sens. Et c'est là où la foi chrétienne se distingue de toutes les autres religions, en présentant que le salut est uniquement par grâce, par la faveur imméritée de Dieu, et non pas par les bonnes œuvres que nous on peut accomplir, non pas par le bien que l'être humain pourrait faire. Et donc c'est la deuxième implication pour nous, comprenons que le salut est uniquement par grâce. Comprenons que notre CV n'est pas meilleur que ce peuple, et que nous méritons également un jugement de la part de Dieu. Alors on peut se demander comment ça se fait que si on a placé notre foi en Jésus, Dieu ne nous donne pas le jugement qu'on mérite. Et comment ça se fait même que si on a placé notre foi en Jésus, Dieu nous donne ce qu'on ne mérite pas, le pardon de nos péchés, la vie éternelle, une relation privilégiée avec lui. C'est uniquement par grâce. C'est ce qu'on voit dans le Nouveau Testament, la Bible dit, c'est par, dans Éphésiens 2, c'est par la grâce en effet que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Ce n'est pas par ce qu'on fait en disant « moi je suis meilleur qu'un autre », mais c'est uniquement par grâce, le don gratuit de Dieu. Au cœur de la foi chrétienne, il y a la grâce, la faveur imméritée de Dieu que l'on ne mérite pas. Et au cœur de cette grâce, il y a la croix de Jésus, où Jésus, le Fils de Dieu, a donné sa vie, où Jésus a pris la punition pour qu'on n'ait plus à la subir, où il a détourné la colère de Dieu qu'on avait provoquée par notre péché, où Jésus nous a acquis par sa vie parfaite, par sa mort et par sa résurrection, le salut de notre âme. Alors souvenons-nous donc que le salut est uniquement par grâce, pas parce qu'on le mérite, pas parce qu'on serait meilleur que ceux qui nous entourent, mais uniquement par grâce. Et ça s'adresse aussi pour vous si vous découvrez la foi chrétienne. Ne cherchez pas à faire des œuvres religieuses dans le but de satisfaire votre conscience, mais placez votre confiance en Jésus. Regardez à qui Jésus est. Regardez à ce que Jésus a fait en venant sur cette terre. Comprenez que Jésus est réellement le sauveur du monde. Comprenez que Jésus est celui qui peut vous donner ce dont votre âme a tant besoin. Le pardon de vos fautes, une relation restaurée avec votre Créateur. Le jugement de Dieu est réel. Mais la grâce de Dieu l'est aussi. Et cette grâce est accessible pour vous, qui que vous soyez, encore aujourd'hui. Comprenons que tout est par grâce. Et troisième implication, nous ne nous pensons pas meilleurs que les autres. En tant que chrétien évangélique, je pense qu'on ne va pas dire que c'est grâce à notre justice qu'on a gagné accès à Dieu. On lit un peu notre Bible quand même, on sait que ce n'est pas ça. Mais malheureusement, tristement, parfois, notre manière de parler, notre attitude de cœur, peut montrer qu'on a mal compris la grâce, ou qu'on a besoin d'être rappelé de la grâce. On peut avoir une attitude arrogante vis-à-vis du monde qui nous entoure, un sentiment de supériorité, le sentiment qu'on est quand même, après tout, meilleur que le monde. Il y a nous, les chrétiens, qui vivons de la bonne manière, et il y a eux qui n'ont rien compris, qui vivent n'importe comment. Alors oui, le péché est grave, et on ne veut jamais approuver le péché, mais souvenons-nous que tout ce que nous sommes est dû à la grâce de Dieu. Ne pensons pas « Ah, regarde ce qu'ils font, regarde comment ils vivent !» Nous, on n'est pas comme ça, on va à l'église tous les dimanches, on a une vie morale bien rangée. Non, n'ayons pas ce regard sur le monde. Ayons plutôt un regard de compassion qui dit ils sont perdus, ils ont besoin de Christ, ils ont désespérément besoin de l'évangile. Et réalisons que, livrés à nous-mêmes, on est pareil. On était pareil. Souvenons-nous d'où nous étions, d'où Dieu nous a tirés. Et réalisons que tout est par grâce. Ça me frappe toujours dans les périodes d'élection, Samuel parlait un peu des hommes politiques, comment on peut être très critique vis-à-vis des hommes politiques, et je ne dis pas que c'est totalement inapproprié, mais on dit « Ah, regarde, lui, il a fait ça !»« Ah, mais regarde, lui, il a dit telle chose !»« Ah, mais regarde, regarde !» Je me dis « Mais est-ce que nous, on est meilleurs ?» Si on mettait une caméra sur notre vie, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qu'est-ce que les autres verraient ? Est-ce que ça ne nous arrive pas des fois de parler dans le dos de quelqu'un d'autre? Est-ce que ça ne nous arrive pas parfois de dire la moitié de la vérité, de cacher la vérité? Nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Réalisons que tout est par grâce. Et donc plutôt que notre discours vis-à-vis du monde soit inspiré par la haine ou par la colère, ayons un discours qui respire la grâce. Si chaque fois que les gens autour de nous nous entendent ouvrir la bouche, c'est pour avoir un discours de jugement inapproprié, ils ne vont pas nous écouter. Plutôt, cherchons à présenter Christ, le sauveur du monde, et à ce monde qui en a tant besoin. Sache que tu n'es pas meilleur que les autres. Et la deuxième chose qu'on peut voir dans ce texte, que le peuple avait besoin d'entendre et qu'on a besoin d'entendre aujourd'hui, sache que Dieu t'accepte sur la base de tes promesses. Sache que Dieu t'accepte sur la base de tes promesses. Pardon, de ses promesses. Dieu t'accepte sur la base des promesses de Dieu. Vous auriez dû me corriger. Dieu nous accepte sur la base des promesses qu'il a faites. Parce que c'est surprenant que le peuple, qui est tout aussi rebelle que les autres nations, n'ait pas été détruit comme les autres nations. Ça doit nous surprendre. Alors oui, on se dit c'est en raison de la grâce de Dieu, mais on apprend dans ce texte que cette grâce de Dieu, elle est basée sur ses promesses, sur les promesses de Dieu. Si le peuple a été épargné, c'est en raison de la fidélité de Dieu à ses promesses. On voit dans ces versets que suite au péché du peuple, suite au veau d'or, Moïse prie Dieu pour plaider la cause du peuple. Moïse intercède en faveur du peuple. Regardez avec moi les versets 25 à 29 de Deutéronome 9. Moïse dit « Je m'effondrai devant l'Éternel, je restais effondré 40 jours et 40 nuits, parce que l'Éternel avait dit qu'il voulait vous détruire. Je priais l'Éternel et je dis « Seigneur Éternel, ne détruis pas ton peuple, ton héritage, que tu as libéré dans ta grandeur, que tu as fait sortir d'Égypte par une main puissante. Souviens-toi de tes serviteurs, Abraham, Isaac et Jacob. N'aie pas égard à l'opiniâtreté de ce peuple, à sa méchanceté et à son péché, de peur que les gens du pays d'où tu nous as fait sortir ne disent « C'est parce que l'Éternel n'avait pas le pouvoir de les faire entrer dans le pays qu'il leur avait promis, et c'est parce qu'il les haïssait qu'il les a fait sortir pour les faire mourir dans le désert. Ils sont pourtant ton peuple et ton héritage, que tu as fait sortir par ta grande puissance et par ton bras étendu. » Ce que Moïse est en train de dire à Dieu, là, surtout au verset 27, c'est « Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et Jacob, les ancêtres de ce peuple. Ne regarde pas à ce peuple, n'agis pas en fonction de ce peuple, sinon il n'y a aucune chance parce qu'ils ont fait que du mal. Ne regarde pas à la désobéissance de ce peuple, mais agis en fonction de tes promesses que tu as faites à Abraham. » Et ce que Dieu avait promis à Abraham, c'était de lui donner une descendance nombreuse et de donner à ses descendants un bon pays, mais aussi de s'engager à être son Dieu et que ses descendants soient son peuple, son bien propre. Et Moïse dit à Dieu, souviens-toi de ses promesses. Moïse intercède sur la base des promesses de Dieu. Ce n'est pas que Dieu les aurait oubliées, mais c'est parce que Moïse sait que Dieu est un Dieu qui ne ment pas. Moïse sait que Dieu est fidèle pour tenir ses promesses. Et dans ces versets, c'est pas comme si Dieu changeait d'avis vis-à-vis du peuple en disant « Ah, ça n'a pas marché avec eux, je dois trouver un plan B, je vais chercher un autre peuple. » Non, c'est pas ça. Oui, le peuple mérite d'être détruit et Dieu aurait été juste de le faire. Mais Dieu dit ça à Moïse, au verset 14 en particulier, en quelque sorte pour ouvrir la porte, pour que Moïse prie, pour que Moïse intercède en faveur du peuple et pour qu'on voit la fidélité de Dieu à tenir ses promesses. Et regardez la réponse que Dieu apporte dans le chapitre 10. On n'a pas lu la première moitié du chapitre 10, mais ce passage va ensemble, mais surtout la fin de la moitié du chapitre 10, les versets 10 et 11, nous montrent la réponse de la part de Dieu. Au chapitre 10, de Deutéronome, verset 10, Moïse dit « Je restais sur la montagne comme précédemment, 40 jours et 40 nuits. L'Éternel m'exauça encore cette fois. L'Éternel ne voulut pas te détruire. L'Éternel me dit « Lève-toi, va. » Marche à la tête du peuple, qu'ils entrent pour prendre possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. » Incroyable. Dieu répond à la prière de Moïse. Dieu détourne sa colère. Dieu tient ses promesses. On voit ça dans le verset 5 qu'on avait lu tout à l'heure, on n'avait pas tout lu. Il disait « C'est pas à cause de ta justice et de la droiture de ton cœur que tu entres en possession de leur pays, mais c'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel ton Dieu les dépossède devant toi. » Et c'est pour confirmer la parole que l'Éternel a jurée à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob. Ce n'est pas surprenant dans un sens de la part de Dieu, parce que la fidélité fait partie de son caractère. La fidélité fait partie de sa personne même. C'est normal, c'est logique pour Dieu d'être fidèle. Mais quelle grâce! Et on peut, en tant que chrétien aujourd'hui, compter sur cette même fidélité. Parce que, ultimement, on est bénéficiaire de ces promesses que Dieu a tenues en Christ. Dans Romains 4, je lis juste deux versets qui montrent cela. Paul écrit: c'est par la foi pour qu'il s'agisse d'une grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la descendance, non seulement à celle qui a la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre père à tous, selon qu'il est écrit: je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Ce que ces versets disent, c'est que nous qui avons placé notre foi en Jésus, on est les descendants d'Abraham. Abraham est notre père par la foi. Et donc on est héritier de ces mêmes promesses que Dieu a faites à Abraham. Ces promesses que Dieu a tenu et accompli de manière pleine et entière en Jésus. Et on en est bénéficiaire de manière bien plus grande et bien plus glorieuse. Une terre physique, oui, mais qui est notre patrie céleste. Une relation avec Dieu, oui, mais entière et complète, parce qu'on est couvert de la justice de Christ. On voit que Jésus vient sur cette terre et Jésus réussit là où Israël a échoué, là où nous avons tous échoué, à obéir parfaitement à Dieu. Et on voit que Jésus donne sa vie en mourant sur une croix, et que ainsi Jésus règle le problème du péché, le problème du cœur mauvais de ce peuple, de notre cœur mauvais, de ce volant qui part toujours du mauvais côté. Et on voit là, en Jésus, l'accomplissement ultime des promesses de Dieu. Que par la foi en Jésus, Dieu est notre Dieu, et nous sommes son peuple, son bien propre, son bien précieux. Dieu est fidèle, et il a tenu ses promesses. Et Dieu restera fidèle pour tenir ses promesses. Et c'est pour ça qu'on peut être encouragé par les promesses de Dieu. Si le premier point qu'on a vu nous remettait un peu à notre place en tant que chrétien et nous disait « Tu n'es pas meilleur que les autres, tout est par grâce », bien ce deuxième point nous rassure, nous soulage dans notre vie chrétienne. On sait que Dieu tient ses promesses. On sait qu'il agit en faveur de son peuple pour la gloire de son nom. C'est ce qu'on voit dans le verset 28 de Deutéronome 9. Moïse dit à Dieu: si ton peuple est détruit, les nations vont dire, mais c'est parce que tu n'es pas assez puissant pour le garder. La réputation de ton nom est en jeu, la réputation du nom de Dieu est en jeu. Et donc on voit que Dieu agit en faveur de son peuple pour sa gloire. Et c'est un encouragement pour notre vie chrétienne. Notre motivation à persévérer, même quand c'est difficile, vient du fait que Dieu tient promesse par rapport à nous. Et on a des promesses merveilleuses. Par exemple, dans Jean 10, quand Jésus dit: je leur donne, en parlant de ceux qu'ils sauvent, de ces brebis, je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne les arrachera de ma main. Quelle promesse précieuse! Il y a des moments où on lutte avec le péché et on a l'impression qu'on ne va jamais y arriver, où on est découragé par nos manquements ou par une chute de plus dans tel ou tel domaine. On n'arrive pas à plaire à Dieu comme on voudrait. Et alors qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Et bien, on peut se rappeler que notre salut ne dépend pas de nous, qu'il nous a été donné par grâce, et que le fondement de ce salut, ce qui tient ce salut, ce sont les promesses de Dieu qu'on a dans l'Évangile. Ce sont les promesses de Dieu qu'on a dans la Nouvelle Alliance, que Jésus a conclue par son sang. Et donc on peut se rappeler, s'appuyer sur ces promesses quand on est tenté ou accusé. Je disais cette semaine une citation de Luther qui illustre bien ça. Martin Luther, le réformateur du XVIe siècle, qui disait qui parlait de ces moments où on peut être tenté ou accusé, il écrit ceci: quand le diable nous jette nos péchés au visage et nous déclare que nous méritons la mort et l'enfer, nous devons lui répondre ainsi: j'admets que je mérite la mort et l'enfer. Et alors, est-ce que ça veut dire que je serai condamné à la punition éternelle? Non, aucunement. Car je connais quelqu'un qui a souffert et qui a satisfait la colère de Dieu à ma place. Son nom est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Où il est, je serai aussi. Et si Luther peut parler avec tant d'assurance, c'est parce que ce sont des choses que l'Écriture nous promet si nous avons placé notre confiance en Jésus. Ce sont des promesses que nous avons. Et dans un sens, ça va encore plus loin pour nous, chrétiens, que ce qu'on voit dans Deutéronome 9. Parce que ce n'est pas Moïse qui intercède en notre faveur, mais c'est Jésus-Christ lui-même, le Fils de Dieu. C'est ce qu'on voit dans Romains 8, par exemple. Et lui, il est parfait, contrairement à Moïse. Et Jésus parle à Dieu en notre faveur, sur la base de l'œuvre parfaite qu'il a accomplie à la croix. Quel encouragement! Et avant de conclure, j'aimerais juste qu'on voit ensemble la manière dont ce texte nous met au défi sur la manière dont nous considérons la prière, notre vie de prière. Parce que ce texte nous montre que la prière change véritablement les choses. Dieu veut que l'on prie et il se sert de nos prières pour accomplir son plan. Dans ces versets, on voit que Dieu répond à la prière de Moïse et que Dieu agit en fonction de cela. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire que Dieu serait limité par notre bonne volonté ou non à prier. Bon, Dieu est souverain, il n'a pas besoin de nous pour agir dans ce monde, il connaît toutes choses, il sait ce qu'on va prier, il connaît toutes choses dans ce monde. Mais on voit que ce Dieu souverain a choisi qu'un des moyens par lequel son plan allait s'accomplir, c'était par la prière de ses enfants. Dieu n'est pas limité par nos prières, mais lorsque nous prions, nous pouvons participer à l'accomplissement du plan de Dieu dans ce monde. Quel privilège ! Quel privilège ! Et on voit ici que ces prières doivent s'appuyer sur les promesses de Dieu et viser la gloire de Dieu. C'est ce que Moïse fait ici. Il dit à Dieu, souviens-toi des promesses que tu as faites et agis en fonction de cela. Et au verset 28, on a vu que Moïse prie parce que la réputation de Dieu est en jeu. Et donc quand on ne prie pas avant tout pour nos besoins personnels ou de manière égoïste, mais on prie pour que le nom de Dieu soit glorifié, pour sa réputation, pour que l'évangile progresse. Et c'est comme ça que Jésus a enseigné ses disciples à prier dans notre Père, le début du Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La gloire de Dieu est en jeu. Et c'est pour ça qu'en tant qu'Église, on veut prier pour les événements de Noël, qu'on veut prier pour le stage de Pâques et pour d'autres choses qui concernent la vie de l'Église. C'est pas parce que c'est un devoir religieux ou pour nous donner une bonne conscience, non, pas du tout. C'est parce qu'on est convaincu qu'il y a un Dieu dans le ciel, que ce Dieu est notre bon Père céleste et qu'il se plaît à répondre aux prières qui sont faites pour sa gloire. Et donc on prie pour ces choses avec assurance, en s'attendant à ce que Dieu agisse pour la gloire de son nom et en nous soumettant à sa volonté. Alignons nos prières au modèle de l'Écriture. J'aimerais juste terminer en vous parlant de John Newton. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de lui, mais vous avez probablement déjà écouté ou chanté un de ses chants, Amazing Grace, Grâce infinie. Il a vécu au XVIIIe siècle. Et on connaît un peu moins l'histoire de John Newton, mais c'est assez frappant. Il était marin, mais c'est quelqu'un qui avait aucune morale. Il était capable de faire les pires choses au monde, sans aucun problème de conscience. Il était marchand d'esclaves. C'est quelque chose de terrible. Son métier, c'était de vendre des esclaves. C'est juste atroce. Il n'avait aucune morale, bonne conscience. Mais ce qui est merveilleux, c'est que la grâce de Dieu l'a trouvé. Il en est venu à entendre l'évangile, à comprendre l'évangile, à placer sa confiance en Christ, et sa vie a complètement changé. Il a arrêté le commerce d'esclaves, et il s'est mis à lutter pour l'abolition de l'esclavage. Il réalisait combien tout ce qu'il avait fait dans son passé, c'était terrible. Il voyait l'offense, la gravité de son péché. Voilà ce qu'il écrit à propos de sa vie d'avant, dans le commerce d'esclaves. Il écrit « Ce sera toujours un sujet d'humiliation pour moi, de penser que j'étais un jour un instrument actif dans une œuvre à laquelle mon cœur tremble maintenant. » Il était conscient combien c'était terrible tout ce qu'il avait fait, mais il était aussi conscient de la grandeur de la grâce de Dieu qu'il avait trouvée. Et donc il a écrit ce chant, Amazing Grace, Grâce infinie, qui parle de cette grâce merveilleuse de la part de Dieu. Mais je voulais juste la première strophe, parce que ce chant parle de ce que nous enseigne ce texte, que tout est par grâce, que tout comme ce peuple, on n'a aucun mérite à présenter devant Dieu, mais qu'on reçoit tout par grâce. Grâce infinie, quelle douce mélodie, qui a sauvé un pécheur tel que moi. J'étais perdu, et maintenant je suis sauvé. J'étais aveugle, et maintenant je vois. Mais ce qui m'a frappé cette semaine, et je vais terminer avec ça, c'était de lire ce qu'il a dit à la fin de sa vie. Il a dit ceci tout à la fin de sa vie, John Newton, il a dit à un ami, « J'ai pratiquement plus de mémoire, mais je me souviens de deux choses. Je suis un grand pécheur, et Christ est un grand sauveur. » J'ai pratiquement plus de mémoire, mais je me souviens de deux choses uniquement. Je suis un grand pécheur, et Christ est un grand sauveur. On peut tout oublier si on se souvient de ça. La gravité de notre rébellion contre Dieu et la grandeur de la grâce de Dieu qu'on trouve en Jésus. Prions ensemble pour terminer. Et notre Dieu, nous reconnaissons que nous n'avons aucun mérite à plaider devant toi. Nous n'avons aucune œuvre de justice que nous pouvons te présenter pour t'impressionner. Au contraire, nous avons une liste de péchés, de choses que nous avons commises qui ont offensé ta sainteté. Et nous te remercions pour cette merveilleuse histoire de l'amour de Jésus qui est venu sur cette terre pour mourir à la croix à notre place. Nous te remercions pour ta grâce merveilleuse, ta faveur imméritée que tu nous donnes. Merci pour le privilège qu'on a maintenant de d'être ton peuple, ton bien précieux, par pure grâce. Aide-nous à réaliser cette grâce jour après jour et que cette grâce soit toujours merveilleuse à nos yeux. Nous prie ça ultimement pour la gloire de Jésus. Amen.